Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.
After Galaxy saison 2, nous revoilà et vous êtes toujours là. Merci de nous suivre sur votre appli. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner, de lâcher vos commentaires, vos likes pour suivre les prochains épisodes, écouter, réécouter les épisodes précédents. La saison elle aussi est déjà bien lancée. Le Paris Saint-Germain va disputer son troisième match de phase de groupe de Ligue des Champions et ce sera face au Benfica. Et bah c'est là qu'on voit, avec pour guide, l'administrateur du compte Twitter @BenficaFR, Anto. Salut Anto, merci d'être avec nous.
Salut à vous, merci à vous de l'invitation.
T'es déjà dans le match ou quoi Anto?
Bien sûr, on est prêt.
Il est chaud déjà Anto. Et puis en guest, il a porté le maillot du Benfica entre 2008 et 2009. Et avec les Aigles, il a notamment marqué lors d'un classico face au FC Porto.
Viu de Yebda e o golo do Benfica. É Yebda a tirar para o fundo da baliza de Elton, colocando o Benfica em vantagem no marcador. Na sequência de pontapé de canto marcado por José António Reis, o Benfica passa para a frente do marcador no Dragão.
Et il est là, Hassen Yebda. Salut Hassen.
Salut Villas.
Ça fait plaisir de te revoir.
Ouais, c'est vrai, ça me fait plaisir.
Ça fait un moment. Déjà, merci d'être avec nous, en tout cas Hassen. Donc passé par le Benfica entre 2008 et 2009. Bon souvenir le Benfica?
Oui, un très gros souvenir pour moi. C'est vrai que ça fait maintenant une dizaine d'années, mais c'était quelque chose de nouveau, un nouveau pays, beaucoup de choses à découvrir et... J'en garde de très très gros souvenirs.
On l'a entendu hein, sur ce but là qu'on vient d'entendre, corner tiré par José Antonio Reyes, le défunt José Antonio Reyes.
Ouais, paix à son âme. J'avais une relation particulière avec lui parce que quand je suis arrivé au Benfica, lui venait d'Arsenal, Real Madrid, etc. Donc je le voyais avec les gros yeux quand même. Et c'était mon compagnon de chambre au final. Et comme je parlais déjà un petit peu espagnol, donc on a tissé des liens, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'y repense, ça me fait mal au cœur. Mais voilà, c'est la vie. C'était quelqu'un de très joyeux. Et voilà, ça a été un plaisir, en tout cas pour moi, de pouvoir jouer avec lui.
Alors, on pense à lui, on pense à sa famille, bien sûr. Exactement. Alors, le commentateur de Sport TV n'était pas hyper, hyper expressif sur ton but face au FC Porto. Alors, histoire de compenser, on a décidé de ressortir ça.
Yebda !
Il s'arrête jamais. Il y a un moment, on a dû couper parce que voilà, c'était fort. But avec l'Algérie, on l'a compris. Un match de qualif pour la CAN 2012 avec l'Algérie. Péno que tu as marqué à la 5e minute de jeu face au Maroc.
Exactement. Voilà, un match très important pour nous. Surtout que c'était un derby. Et voilà, c'est sûr que les commentateurs ne sont pas les mêmes.
Anto, toi qui es fan du Benfica, qu'est-ce que ça t'inspire d'avoir Hassen Yebda là avec toi? Alors, même si c'est vrai, hein, on va être objectif aussi, c'est pas forcément les plus grands joueurs en termes de titres pour le Benfica non plus. Hein.
Oui, cette histoire, ça fait plaisir de pouvoir parler avec un ancien joueur, alors qu'il connaît un peu la maison, qui va pouvoir un peu nous expliquer comment se passe à l'intérieur du club.
Et bah, c'est pour ça
que nous, on est seulement simple supporter.
C'est vrai, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là également, puisque le Paris Saint-Germain va donc affronter le Benfica en Ligue des Champions. Deux clubs qui se sont déjà croisés à 6 reprises. La dernière fois remonte au 10 décembre 2013, phase de groupe de Ligue des Champions, match au Stadio de Luz. Le Benfica qui était mené 1-0 face après un but de Cavani égalise juste avant la pause sur un pénalty de Lima. Et puis, à la 58e minute de jeu.
Ainda Maxi Pereira vai cruzar, não, de Coutinho, Enzo, devolução, bem, Maxi, linha final, cruza, 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 vai marcar! Estava nos oitavos da Liga
Et voilà, but de Nico Gaïtan qui marquera la victoire 2-1 du Benfica. Tu vois, il n'y a pas que les commentateurs algériens qui font des trucs de fou. Hassen. Hein. Alors, c'était il y a près de 10 ans. Hassen, toi, tu as grandi en Ile-de-France. Je crois que tu es fan du PSG. Enfin, tu étais fan du PSG quand tu étais gamin, dis-moi. Tu as joué au Benfica. Est-ce que tu dirais que pour la confrontation qui arrive là en Ligue des Champions, le PSG est archi favori?
Bien sûr qu'il est archi favori. Bon, c'est vrai que j'ai toujours été fan du PSG. Moi, je suis originaire de la région parisienne, donc. C'est un petit peu normal, mais c'est sûr qu'ils seront archi favoris, même si le Benfica, depuis le début de la saison, a montré de très belles choses. Mais ça reste le Paris Saint-Germain et bien sûr qu'ils sont favoris.
Anto, comment tu as réagi, toi, au moment du tirage au sort, quand tu as vu que le Benfica tombait contre le Paris Saint-Germain?
Alors moi, j'étais content parce que je me suis dit que je pouvais aller voir le match au Parc des Princes. Voilà, mais sinon, oui, c'est... Fin... moi, j'ai réagi plutôt assez content parce qu'on va pouvoir se confronter au PSG, donc à l'indice UEFA France-Portugal, je trouve ça toujours intéressant. Ça change du Bayern de l'année passée. ça va être un bon match. On peut rappeler que les clubs français n'ont jamais gagné chez nous depuis 15 matchs. Le PSG n'a jamais gagné chez nous tout court. Donc ça va être, je pense, une très belle double confrontation.
Alors Hassan, tu le disais, hein, le PSG et toi, finalement, c'est une histoire d'amour qui ne s'est jamais vraiment conclue. Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de contacts même. Hein. Alors après tes passages au Benfica, après ensuite quand tu étais au Napoli, est-ce que c'est un regret d'avoir jamais joué pour le PSG finalement?
Bien sûr que si. C'est normal, j'ai toute ma famille ici, j'aurais aimé jouer au Paris Saint-Germain. Mais après, ça reste... voilà, j'ai fait ma carrière comme il se doit, dans les clubs où j'ai été. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret.
Et pourquoi ça ne s'est jamais fait alors?
En fait, il y avait eu des contacts lorsque j'étais au Mans déjà. Avant d'aller à Benfica, il y avait eu certains contacts et au final, voilà, ça ne s'est pas concrétisé. Et j'ai signé au Benfica. Et ensuite, lorsque j'étais au Benfica, il y a eu encore quelques approches. Ça ne s'est pas fait. Et puis après, plus rien.
Et puis, tu as fait ta belle carrière.
Ouais. J'ai fait ma carrière, ouais, c'est ça.
Et on va analyser dans le détail le Benfica d'aujourd'hui, celui qui attend le Paris Saint-Germain.
Also happy for them, and I'm also happy for our president because he's a really great person. He has so much responsibility. He also deserves that we play Champions League.
Les mots de Roger Schmidt envers Rui Costa, on va y revenir hein, sur ces deux personnalités incontournables de ce Benfica. Prod réalisé par Benfica TV, dont on vient d'écouter un extrait, qui revient sur la campagne de qualification du Benfica pour cette phase de groupe de Ligue des Champions. Parce qu'Anto, il faut le rappeler, le Benfica n'a terminé que 3e de la Liga portugaise hein, la saison dernière.
Hein. Exactement, on a fini 3e les deux dernières saisons.
Ouais, ce qui est quand même pas top. C'est un club qui est sevré de titres hein, ces derniers temps, Anthony. Hein.
C'est ça, si je ne me trompe pas, on a gagné un seul trophée, la Supercoupe en 2019. C'est frustrant quand on est supporter, c'est très frustrant, surtout quand on supporte le Benfica. Après, j'ai envie de dire, tous les clubs ont un cycle. On était sûrement en fin de cycle avec le changement de président, donc on va en revenir après. Et maintenant, on est en train d'en lancer un nouveau, en espérant qu'il dure longtemps.
En 2008-2009, tu avais terminé 3e de la Liga portugaise également à Sen. Est-ce que quand on est joueur d'un club comme le Benfica, terminer 3e de la Liga portugaise, est-ce que c'est un échec?
C'est une catastrophe.
Ah ouais, vraiment?
Ouais, c'est vraiment une catastrophe. Nous, c'est vrai qu'on avait très bien démarré la saison. Jusqu'au mois de janvier ou février, on était invaincus. Et ensuite, voilà, il y a eu quelques soucis dans le groupe, etc. On a eu de mauvais résultats, on a fini 3e, mais c'était vraiment une catastrophe. Un club comme le Benfica doit finir champion.
Grosse pression du coup à l'époque?
Ouais, bien sûr, grosse pression. Ouais.
Et depuis le début de saison, le Benfica compte 13 victoires en 13 rencontres jouées, hein, toutes compétitions confondues. C'est le meilleur début de saison du Benfica depuis 82-83. C'était Sven-Goran Eriksson, hein, l'entraîneur à l'époque. Le SLB qui vise la Liga, qui lui a échappé lors de ses trois dernières saisons. Mais quel est donc l'objectif du Benfica en Ligue des Champions? Réponse de son entraîneur Roger Schmidt.
eine Gruppe ist mit Paris und Juventus, ist natürlich klar, ist nicht einfach, aber ist jetzt auch nicht unmöglich. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir sind zufrieden, wenn wir Dritter werden. Also wir wollen schon versuchen, in die K.O.-Runde zu kommen, ja klar.
Voilà, un groupe avec le PSG, la Juve, c'est pas facile, mais pas impossible. On ne se satisfera pas de la troisième place, on veut passer en huitième, dit le technicien allemand. Anto, le Benfica s'en sort plutôt pas mal en Coupe d'Europe ces dernières saisons. Hein.
Exactement, on fait quart de finale la saison passée, qui nuance un petit peu la saison catastrophique en termes de résultats en championnat. On fait quart de finale d'Europa League en 2019. Suite à ça, on peut aussi rajouter les deux finales perdues de Ligue Europa en 2013-2014. Si je ne me trompe pas, c'est 2012-2013. Donc oui, plutôt bien aussi. Ce qui est souvent oublié, c'est qu'on est le club qui a perdu 5 finales de Ligue des Champions. Donc on est un club historique pour la compétition. 2 victoires, 5 défaites en finale. Donc on va essayer, en espérant que renouer avec le succès dans les prochaines années.
Quand on est joueur du Benfica à Seine, qu'on n'a pas gagné de titre depuis 2-3 ans, ce que tu as connu d'ailleurs hein, lors de ton passage à La Louche, est-ce que la priorité c'est d'abord le championnat, les compétitions nationales et les titres finalement, et la Coupe d'Europe c'est du bonus ou alors on joue tout à fond ?
Non, c'est sûr que lorsque ça fait un certain laps de temps qu'on n'a pas gagné le championnat, on est vraiment focalisé sur le championnat et c'était l'objectif premier. Après, bien sûr, les Coupes d'Europe c'est le bonus, hein. Même pour les joueurs, c'est une certaine visibilité. Dans toute l'Europe, sur les plus gros championnats. Donc, ça reste quand même très, très important.
Mais ça veut dire que concrètement, au début de saison, il y a un dirigeant qui vient vous voir et qui vous dit les gars, on vit ça. Ou comment, c'est quoi c'est entre les lignes ou c'est clair comme message ?
Non, rien n'est clair. Ce qui est clair, c'est qu'il faut gagner le championnat. Voilà, ça, déjà, c'est clair. Mais après, en ce qui concerne les Coupes d'Europe, ça, voilà, on joue match après match et on voit ce qui se passe. Mais il n'y a pas de plan sur la comète. On ne se dit pas qu'on va gagner la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, etc. On se dit qu'on va faire match après match et on verra comment ça se passera.
Anto, il faisait référence il y a quelques instants à toutes ces finales perdues par le Benfica. Ils ont un record hein, d'ailleurs avec la Juve et au niveau des finales européennes perdues. La question qu'il y a derrière ça, c'est est-ce qu'un club portugais peut prétendre à être champion d'Europe à nouveau, tu penses ?
Bien sûr, pourquoi pas ?
Même en Ligue des Champions ?
Bien sûr, le FC Porto l'a bien fait.
C'était il y a longtemps, c'était en 2011.
Bah justement.
Enfin, non, 2004, la Ligue des Champions, c'était 2011. Ouais,
exactement. Ouais. Et avec Mourinho, non, pour moi, le Benfica est capable d'aller chercher cette Ligue des Champions. Peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, on ne sait pas.
Anto, ce serait quoi pour toi, supporter du Benfica, une belle saison européenne ?
De faire aussi bien que la saison passée. Déjà, ça serait déjà très très beau. Faire une quart de finale, pour nous, ça serait déjà incroyable. Après, bien sûr, on vise le plus haut possible.
Et gagner une Europa League, non ? Ou voir une conférence ? Conférence, c'est pas possible cette année, mais...
Ouais. Moi, si, ça serait toujours sympa. Après, il y a la fameuse malédiction depuis 50 ans.
De Goodman.
C'est pour ça, ouais. Moi aussi, gagner un trophée, ça serait extraordinaire pour nous.
On rappelle d'ailleurs cette histoire hein, de la malédiction de Goodman. Année 60, le Benfica gagne 2 Coupes d'Europe coup sur coup. Goodman part en bisbille avec les dirigeants du Benfica. Et là, il balance la malédiction. Vous ne gagnerez pas un trophée européen dans les 100 prochaines années. Il y a cette fameuse série de défaites perdues, de défaites en finale de Coupe d'Europe. Ça, c'est un truc dont on t'a parlé quand tu étais au Benfica aussi.
J'en avais entendu parler, mais... Je ne savais pas réellement si c'était vrai, etc. Je n'avais pas cherché à creuser.
En tout cas, il court après. Il y a eu la Youth League. Est-ce qu'on peut la comptabiliser ? Je ne sais pas, mais...
Non, on ne peut pas la comptabiliser, mais ouais, ça serait bien d'en gagner une, en tout cas.
Alors, de qui Paris va devoir se méfier ? Quelles sont les armes du SRB ? Début de réponse.
Bola lançada rapidamente. Está Rafa na área. Cruzamento atrasado. Gonçalo!
Retenez son nom, hein. Gonçalo Ramos, Gonçalo Ramos. Il avait claqué un triplé au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions face à Midtjylland. Jeune offensif de 21 ans qui est le meilleur buteur du Benfica cette saison. Il a même été convoqué pour la première fois en Slaissant par Fernando Santos lors du dernier rassemblement. Il a déjà marqué autant de buts, 8, que sur l'ensemble de la saison dernière. Alors qu'à la base, c'est même pas un vrai neuf en plus, hein, ce Gonçalo Ramos. Anto, c'est le nouveau chouchou des Benfiquistes, hein, ce gamin.
Exactement, c'est le symbole un peu du nouveau projet lancé par l'ancien président. beaucoup formé pour vendre, malheureusement c'est comme ça. On a vu jouer en Félix avant, Ruben Dias avant, puis là c'est lui qui porte l'offensif cette année, suite au départ de Darwin. Puis pour l'instant, on est satisfait, en espérant qu'il ne parte pas, vu qu'il y a pas mal de clubs qui seraient revenus au renseignement, y compris le PSG. Donc en espérant qu'il fasse la saison complète et puis qu'on puisse rêver, qu'il puisse nous faire rêver.
Je sais que tu gardes toujours un œil hein, sur le Benfica. Tu l'aimes bien, ce petit Gonçalo Ramos, là ? Tu dirais, là, Galtier, fais gaffe à lui, d'abord ?
À lui, d'abord, je ne sais pas, je ne pense pas, non. C'est vrai que c'est un super joueur qui est capable de marquer, c'est un bon attaquant, mais je pense qu'il y a d'autres joueurs qui sont... D'où le danger peut arriver, et en fait, Ramos, lui, sera là pour marquer, en finale. Mais je pense que Grimaldo, bon, tout le monde le connaît, hein, c'est le joueur qui peut...
Coup de pied arrêté, super pied gauche, ouais, bon
voilà,
centreur.
Exactement, sur son côté qui peut apporter offensivement, qui peut apporter beaucoup. Et il y a aussi, qui est moins dangereux, mais je pense que c'est lui la plaque tournante, c'est Enzo Fernandez. Pour moi, qui est un super joueur, qui me fait penser un petit peu à Pizzi, à Vitinha. Voilà, un joueur de milieu de terrain qui fait tourner le ballon et qui est un super joueur technique. Il a une très belle vision de jeu. Et je pense que ça peut être un... Voilà, il sera pas dangereux. Mais pour le jeu que va développer le Benfica, ça sera la pièce maîtresse. En tout cas.
On va en reparler d'Enzo Fernandez, qui lui aussi a célébré sa première cape avec l'Argentine, lui en l'occurrence, lors de la dernière trêve internationale. Juste pour en venir à Gonçalo Ramos, hein, qui est formé au Benfica, pour avoir conscience de ce que le Seychelles, l'académie du Benfica, représente, le CUS a publié une étude en février dernier sur les millions générés par les joueurs formés au club en Europe. Depuis 2015, le Benfica est en tête, avec près de 400 millions d'euros de joueurs formés au club vendu hein, depuis 2015. Ils sont devant le Real Madrid avec un peu plus de 300 millions d'euros, Monaco et l'Ajax. Alors, moi, j'ai regardé au cours de la saison 2008-2009, quand tu joues toi au Benfica à Seine, il n'y a que trois joueurs qui jouent avec l'équipe première. Miguel Vitor, qui a été naturalisé israélien d'ailleurs, qui joue avec l'équipe d'Israël. Georges Ribeiro et Moreira, le gardien. L'académie du Benfica, le Seychelles, a été inaugurée en 2006. Est-ce que tu dirais qu'à ton époque, c'était plus difficile pour les jeunes formés au club de s'imposer en équipe première ?
Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hein. C'est sûr que lorsque j'y étais, c'était des joueurs déjà aguerris qui venaient de championnats majeurs en Europe. Donc voilà, ouais, il y avait des super joueurs. Il y avait Pablo Aimar, il y avait Suarez qui venait de l'Inter Milan, il y avait Reyes qui venait de Madrid, il y avait Di Maria, David Luiz, etc. Donc c'est sûr que c'était compliqué pour ces joueurs de se faire une place. Mais après, c'est vrai qu'il y avait Miguel Vitor qui était là et qui titillait, qui rentrait un petit peu dans le groupe, qui a fait quelques apparitions. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir.
À ton époque, le Seychelles était récent aussi. Hein. Il venait d'être créé, le centre de formation.
Exactement. Donc, on voit le travail qui a été effectué pendant ces 10 dernières années.
Et alors, même si le Benfica mise pas mal sur la formation, il a investi aussi beaucoup sur le mercato l'été dernier, plus de 65 millions d'euros. Il a fait référence à Enzo Fernandez il y a quelques instants à Seine. Anto, il y a des recrues qui sont très vite intégrées au-delà d'Enzo Fernandez en Benfica depuis le début de saison.
Exactement. Le Brésilien, David Neres, qui arrive du Shakhtar. Lui aussi, il faudra faire très attention parce que ça reste un top joueur. On l'a vu contre la Juventus, il a fait un gros match, il marque un but. Donc voilà, c'est un joueur qui est très 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 intéressant et je dirais même qui revit. Si on retrouve le joueur qu'il était un peu à l'Ajax. Donc il faudra faire très attention pour le PSG.
Et toi, en tant que suiveur, que fan du Benfica, t'en penses quoi d'Enzo Fernandez ?
C'est un bijou. C'est un bijou. Il est trop fort. On a eu peur qu'il vienne pas en juillet. Donc il est finalement arrivé. Même d'après une information que j'ai eue, Benfica aurait reçu une offre de 50 millions le dernier jour du mercato d'un club anglais. Je sais pas si c'est vrai. Mais c'est un joueur qui malheureusement je pense pas qu'il restera très longtemps parce que c'est lui qui contrôle hein, le milieu de terrain. On l'a vu contre la Juventus, c'est vraiment trop fort.
Ouais, et puis il y aura un autre joueur à surveiller également qui est formé lui au Seychelles, en l'occurrence c'est Antonio Silva. Il y a une grosse hype autour de lui, hein, le jeune défenseur central également. Bah tiens justement, parce qu'on évoquait les ventes, le PSG-Benfica c'est aussi une opposition de modèle de politique sportive. Il y a un Benfica qui a vendu pour plus d'un milliard de joueurs depuis 10 ans et un Paris Saint-Germain qui a acheté pour plus d'un milliard et demi de joueurs dans le même temps. Anto, c'est pas frustrant quand on est supporter du Benfica, un club qui se veut ambitieux, de voir ses meilleurs joueurs partir sans cesse comme ça ?
C'est très frustrant, mais j'ai envie de dire qu'à force, on est habitué. Vu que ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça, on se pose même plus la question. Malheureusement, on sait que chaque année, nos meilleurs joueurs vont partir. Après, c'est le système économique qui est un peu comme ça. Donc, on est un petit peu obligé de vendre afin de rééquilibrer les comptes. Donc, c'est frustrant, mais en espérant que d'ici quelques années, on puisse garder nos joueurs.
Quand on est un jeune joueur, comme tu l'as été quand tu es arrivé au Benfica à Sen, quand on arrive à la louche dans le championnat portugais, est-ce qu'on voit ça comme un simple tremplin, finalement?
C'est vrai que je l'avais perçu comme ça, moi. En allant là-bas, je me disais, ça va être un tremplin pour moi. Je vais faire une saison ou deux saisons et puis je partirai. Mais le problème, c'est que quand on rentre là-bas et on voit ce que c'est réellement, eh ben, au final, on se dit que ce n'est pas un tremplin et on peut rester là-bas, au final, pendant une dizaine d'années sans problème, quoi.
Et comment on le vit de l'intérieur quand on voit justement chaque mercato, alors chaque mercato, j'allais dire tous les ans, c'est même tous les 6 mois maintenant au Portugal, quand on voit les meilleurs joueurs partir comme ça un par un.
Ben voilà d'où vient le mot tremplin, c'est qu'au final ça part toujours, ça vient, ça part, ça vient, ça repart, donc au final on le prend comme un tremplin. Mais c'est vrai que le Benfica, je pense que si le club pouvait garder ses joueurs longtemps, ça serait extraordinaire.
Et il y en a un pour qui ce PSG Benfica sera particulier, ce sera peut-être un tremplin pour lui aussi, c'est Julian Draxler, l'international allemand, qui a été prêté par les Parisiens dans les derniers instants du mercato.
Novamente para Draxler, vem ali a desmarcação, a Draxler, o alemão, passa um, passa dois, bateu, gol! Draxler também já marca! Lindo gol! Genial! Draxler está vivo!
Ah, il est enthousiaste, hein, lui. Hein.
Très enthousiaste.
Il a du sang algérien, je crois, Hazen. C'était le 18 septembre, hein, face au Maritimo. Draxler marquait son premier but avec le Benfica. Alors, une patate à la hauteur du commentaire. Je vous invite à aller voir le but, hein, sur rmcsport.fr. Draxler est vivant. Un crack est un crack, dit Nuno Match, le commentateur sur Antenneon. Alors, c'est vrai qu'Anto, Draxler, il est arrivé avec le statut de superstar au Benfica.
Exactement. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, donc j'étais plutôt satisfait de son arrivée. Après, statut de star, c'est parce qu'il vient du PSG, donc forcément, quand un joueur vient du PSG, c'est toujours un peu plus, comment dire, avec un gros salaire, donc forcément, c'est un joueur avec plus de visibilité. Moi, je le vois plus comme un super sub qu'autre chose, parce que c'est un très bon joueur qui sort des années assez compliquées au PSG, qui n'a pas pu montrer son talent. C'est un champion du monde aussi, faut le préciser. Donc forcément, quand tu es champion du monde, c'est toujours important de performer ensuite. Donc on verra bien ce qu'il donne au fil des mois, en espérant qu'il
arrive à se relancer. Excuse-moi.
Exactement. Ah, comme David Neres.
Anto, tu faisais référence, il est champion du monde, Draxler. Il n'y a eu que 5 champions du monde dans l'histoire du championnat portugais. Tu les connais ou pas, Hassan? On va voir si t'as révisé, si t'as lu ce que je t'ai envoyé surtout.
Si, j'ai lu, mais je ne me rappelle plus.
Bon, il y a Casillas, c'est l'un des plus récents. Adil Rami, c'est le plus récent d'ailleurs. Enfin, c'était le plus récent jusqu'à
Draxler. Au Portugal.
Qui a joué au Boavista. Il y a Capdevila qui était passé par le Benfica. Et puis Anderson Polga qui était au Sporting dans les années 2000. Il avait été champion en 2002 également. Est-ce que tu le vois comme un super sub, Draxler, au Benfica, comme le dit Anto, Hassan?
Super sub, non, parce que je pense qu'il jouera. Mais le truc, c'est qu'il est arrivé là-bas en tant que star. C'est vrai que ça reste une star parce qu'il vient du Paris Saint-Germain où il n'y a que des stars. Le problème, c'est que c'est pas ce joueur-là qui va faire la différence. C'est pas lui qui va dribbler 2-3 joueurs et qui va marquer, etc. C'est sûr qu'il c'est plus un joueur d'équipe. Et c'est un super joueur d'équipe. Mais pour le championnat portugais, je pense pas qu'il fasse autant la différence que ça.
Alors, il y a quand même parmi le statut de star, il faisait référence à la question du salaire. La revue Sábado a fait une étude, il y a quelques jours, sur les plus gros salaires au Portugal. Mais tout métier, tout corps de métier confondu. Hein. Tout en haut de la liste, devant des présentatrices télévedettes, des chanteurs, des PDG, il y a Julian Draxler. Salaire mensuel de 583 000 euros, pris en charge à 80% par le PSG, il faut le préciser quand même également. Franchement, Hassan, ça met de la pression quand même quand on se débarque avec ce statut-là aussi dans un championnat comme le championnat portugais.
Bien sûr, ça met énormément de pression. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été étonné du choix à Benfica, parce que parce qu'une fois qu'il sera là-bas, il va falloir qu'il montre beaucoup de choses et tout l'étendue de son talent, parce que vraiment tout le monde va l'attendre au tournant.
La saison dernière, le Sporting avait relancé Pablo Sarabia, prêté par le PSG également. Tu penses que ça peut faire la même avec Draxler ?
Personnellement, je ne pense pas. Sarabia, c'est un joueur aussi qui est plus offensif que Draxler. Et,
mais voilà, c'est un joueur d'équipe aussi, comme tu le disais tout à l'heure, non ?
Ouais, c'est vrai que c'est un joueur d'équipe, mais je pense qu'il est quand même plus axé sur l'offensif. Sarabia, donc, voilà, il est plus amené à faire la différence que Draxler. Je pense que c'est pour ça que ça peut être problématique.
Anto, sans vouloir griller ton équipe, c'est quoi les points faibles de ce Benfica selon toi ? Depuis tout à l'heure, on en dit que du bien, mais y a pas que, tout n'est pas parfait, même s'ils font que gagner depuis le début de saison.
Moi, je dirais les points faibles, c'est un manque de profondeur au niveau du banc sur certains postes, parce que c'est pour ça que quand je disais que Draxler serait plus un super sub, parce que Rafa Silva est déjà, il est déjà ancré dans le 11. Donc, et malheureusement, il n'y a pas de remplaçant. Quand on voit que Rafa il sort derrière, ça manque de vitesse, ça manque de tout ça. Donc, je dirais plus le manque de profondeur du banc sur les postes offensifs. Ensuite, et qu'on n'est pas assez tueur. Malheureusement, contre la Juventus, on l'a vu, on aurait dû gagner, en mettre plus, du moins, afin de ne pas se faire peur. Donc, c'est un peu les deux points faibles que je remarque. Après, vu qu'on n'a pas encore eu de gros tests, on va dire. Là, c'est vraiment le premier gros test de la saison contre le PSG. Donc, on pourra faire vraiment une grosse conclusion après, je pense.
Alors, il y a aussi des supporters du Paris Saint-Germain qui nous écoutent. C'est quoi le point faible du Benfica selon toi, Hassen ?
Pour moi, selon moi, ce serait peut-être la charnière centrale.
Il y a beaucoup de blessés, on le rappelle. Hein. Morato, ouais. Verissimo, João Vitor.
Ouais, je pense que ça serait plus la charnière centrale avec Otamendi, qui n'est pas non plus super rapide. Quand on voit des joueurs comme Mbappé qui peuvent utiliser la profondeur, ça peut être problématique, c'est sûr.
Et question inverse, il y a aussi des supporters du Benfica qui nous écoutent. C'est quoi le point faible du PSG selon toi ?
Il n'y en a pas.
Tout de suite.
Non, je rigole. Non, voilà, tout le monde connaît le PSG et ça serait compliqué de trouver un point faible, à part que sur les relances, peut-être presser Donnarumma et essayer de voir ce qui se passe, mais si c'est lui qui joue.
Bah, on a souvent tendance à dire que le trio défend pas forcément de façon coordonnée ou défend pas tout court d'ailleurs, mais offensif.
Ouais, c'est vrai que depuis le début de saison, ils défendent un peu plus que la saison passée. Mais oui, on va dire que ça peut être un des défauts de cette équipe.
Impossible d'évoquer le Benfica, ce Benfica, sans s'arrêter sur son président. À l'été 2021, Rui Costa, ancien joueur légendaire des Aigles, succédait à Luis Felipe Vieira aux commandes du SRB.
Sou a partir de hoje presidente do Sport Lisboa e Benfica, na exata medida dos estatutos do clube. Assumo esta liderança com o mesmo orgulho, a mesma paixão e compromisso com que vesti pela primeira vez a camisola do nosso Benfica.
Voilà, Rui Costa qui faisait état de sa fierté d'être président de son Benfica, dit-il, comme lorsqu'il emportait le maillot. Anto, Rui Costa a succédé à Luis Felipe Vieira qui a démêlé avec la justice. Comment t'as accueilli, toi, la prise de pouvoir du maestro qui faisait partie de l'ancienne direction de Vieira également ?
Moi, mitigé, plutôt satisfait, on va dire, dans le sens c'est une ancienne légende du club. Mais oui, comme tu dis, il faisait partie un peu de la clique à Vieira, donc voilà, on voulait, nous, c'était surtout, on voulait, c'était des actes, en fait. Après, les paroles, c'est bien, mais on voulait des actes pour lancer un cycle. Et pour l'instant, je l'ai trouvé très, très, très intéressant avec Jorge Jesus, qui l'a évincé, puis ensuite Elson Verissimo. Il a pu préparer la saison, il l'a préparé en amont. Et je trouve pour l'instant, il fait un travail très remarquable.
Alors, Hassen, toi, tu as connu Rui Costa comme directeur sportif du Benfica. Tu as même été le tout premier joueur qu'il a recruté dans sa carrière de dirigeant. C'était en mai 2008, tu arrivais alors du Mans. Quel souvenir tu en as de ça ? Tu peux nous raconter comment ça s'est passé d'ailleurs ?
Oui, bien sûr. Donc, il y a José Boto qui était l'ancien recruteur, responsable des recruteurs au Benfica, qui était venu me voir à plusieurs reprises au Mans. Et donc, après un match, on a appelé Rui Costa. On a discuté un petit peu ensemble. Ensuite, j'étais à Lisbonne. Je l'ai rencontré. Et voilà, donc j'ai été le premier joueur qu'il a recruté en tant que directeur sportif. C'était quelque chose de très important pour moi. Et voilà, donc je l'ai revu il y a maintenant un mois de cela. Et on en a discuté. Et comme il me l'a répété, il m'a dit « J'oublierai jamais, tu as été le premier joueur que j'ai fait. » Et il me dit « j'ai vraiment pas regretté de t'avoir pris. » Donc ça faisait plaisir. Mais voilà, c'est une personne extraordinaire en parlant de football ou en dehors du football. Et voilà, en tout cas, je suis très très content qu'il soit aujourd'hui le président du Benfica.
Ça faisait combien de temps que tu le voyais pas là, avant de l'avoir revu il y a un mois?
Ça fait, ça doit faire 6 ans que j'avais pas vu.
Et tu trouves qu'il a changé ou pas?
Pas du tout.
Non?
Pas du
tout. Je sais pas, peut-être qu'il a pris, je sais pas, une épaisseur. Il a toujours été charismatique, hein, sur et en dehors du terrain. Mais...
Ouais, mais non, pas du tout. C'est quelqu'un de très humble. Voilà, comme je disais, c'est une très bonne personne de l'intérieur. Et voilà, comme je dis, je suis fier qu'il soit président du Benfica parce que c'est une icône là-bas. C'est quelqu'un de très respecté. C'est vrai que comme il le disait, il faisait partie de la clique à Vieira, mais pas forcément. C'est vrai qu'il a appris avec Vieira, mais il a certainement d'autres choses à faire valoir.
Ils sont plus potes, hein, les deux d'ailleurs.
Hein, voilà, exactement.
Vieira, il envoie du lourd, hein, sur Rui Costa depuis quelques temps.
Ouais, je sais justement, et c'est pour ça qu'au final, j'étais très content qu'il soit directeur sportif pendant plusieurs années parce qu'il a appris avec Vieira justement le métier de président. Et aujourd'hui, je pense que ça se passe bien, très bien même. Et il a montré du caractère depuis qu'il est présent. Et aujourd'hui, voilà, je suis vraiment très heureux pour lui.
Un petit prono pour terminer, les gars, sur ce Benfica Paris Saint-Germain. Anto, tu dirais quoi?
Benfica Paris Saint-Germain, ouais. Match aller, une petite victoire 2-1.
Du Benfica, bien
sûr. Benfica, ouais, bien sûr.
Tu dis quoi, Hassan, toi?
Moi, je dirais 2-1.
Mais pour Paris?
Benfica.
C'est vrai?
Ouais.
Tu les vois gagner quand même?
Ouais.
Tu disais qu'ils sont archi favoris, le PSG, mais...
Ils peuvent être favoris, mais sur un match, tout est possible. On connaît les belles soirées de Ligue des Champions.
Vous avez tous les deux misé 2-1, en tout cas. Ouais. On verra la cote, tiens. On verra ça. Merci beaucoup, Anto, d'avoir été avec nous. Anto, vous pouvez suivre, hein, sur le Twitter à travers le compte @benficafr. Merci, Anto. Hein.
Merci à toi pour l'invitation.
Merci beaucoup, Hassan Yebda. On peut retrouver où, d'ailleurs, maintenant, lui, en revanche? On te retrouve où, Hassan?
On me retrouve où? Un peu partout sur Paris.
Dans des restos, je crois.
Voilà, exactement.
Du fast-food, du resto, taille, vers Porte d'Italie.
C'est ça, exactement.
C'est quoi la rue?
C'est l'avenue de Fontainebleau.
Voilà.
Un restaurant qui s'appelle Otuktuk.
Otuktuk.
Restaurant thaïlandais. Et voilà.
Je vois Jimmy Brown qui me fait OK de la tête. C'est ce que ça veut dire? C'est on va y aller, papa. Mais oui, on va y aller, Jimmy.
Avec
bien
plaisir.
Sûr qu'on va y aller. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été avec nous. On va maintenant se faire un focus sur l'homme qui est à la tête de cette équipe du Benfica, Roger Schmidt. Le technicien allemand a débarqué à Lisbonne en mai dernier.
Yeah, I think it's a really great club, one of the best clubs in the world, and so I think I love football, and if you love football, you love Benfica.
Celui qui aime le football aime le Benfica, avait déclaré Schmidt lors de son arrivée au Portugal, et celui qui aime le foot aime Roger Schmidt. C'est pas Polo Breitner qui va me démentir. Salut Polo.
Bonjour mon cher Nico.
Je suis ravi que tu sois là pour nous aider à analyser, à décrypter, à disséquer même Roger Schmidt. On va pas se refaire toute sa bio, hein, mais Schmidt, 55 ans, c'est un ex-joueur amateur qui était ingénieur mécanique dans une boîte pour des pièces de bagnole. Il a coaché Preußen Münster, Paderborn, le Red Bull Salzburg, Leverkusen, Benjingoan et le PSV avant d'arriver au Benfica. Alors, je sais que tu kiffes Schmidt depuis un moment, depuis ses débuts dans le monde pro à Paderborn notamment.
Ouais, alors c'est intéressant parce que moi je le connaissais vraiment pas, tu sais. Et puis en fait Paderborn c'est un tout petit club parce que j'ai vécu à Bielefeld et donc Paderborn c'est un petit peu la ville de province par rapport à Bielefeld. Et en fait ce club s'était spécialisé pour lancer des jeunes coachs, dont Roger Schmidt, dont Brighton Reiter qui a fait monter le club pour la première fois en Bundesliga, donc l'actuel coach d'Offenheim. Il y a Schubert qui a été entraîneur à Mönchengladbach en Ligue des Champions, etc. Baumgart aujourd'hui qui est entraîneur de Cologne par exemple. Et en fait, Roger Schmidt, ben, c'est extraordinaire. Il arrive à Paderborn, il passe un an seulement, il manque de monter alors qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de moyens à Paderborn. Et puis tout de suite après, il part à Salzbourg, donc il est repéré par le Ralf Rangnick qui était en train de faire sa révolution dans la galaxie Red Bull, etc. après la période Offenheim. Et puis, il se passe d'une façon extraordinaire. Il reste 2 ans là-bas et il revient à Leverkusen. Et là, c'est génial parce que j'avais jamais vu ça, le fameux Gegenpressing. On le connaissait en Allemagne via ce qu'avait fait Jürgen Klopp au Borussia Dortmund, mais là c'était poussé à un extrême, c'est-à-dire dès le coup d'envoi de la rencontre, tu avais tous les joueurs qui couraient pour récupérer le ballon et être en position d'attaque, et donc c'était vraiment, il y avait un côté extrémiste dans ce football-là, pas forcément toujours beau à voir, mais en tout cas ça changeait de ce qu'on pouvait voir dans une logique de Guardiola par exemple, et là moi Roger Schmidt, je suis vraiment tombé amoureux de lui.
Alors, t'as commencé déjà à y répondre un petit peu, mais les débuts de Schmidt au Benfica sont parfaits, hein. 13 victoires sur ses 13 premiers matchs, toutes compétitions confondues. C'est quoi le style Roger Schmidt? Qu'est-ce qui attend finalement le PSG sur le terrain en Ligue des Champions?
Alors, pour moi, il y a plusieurs Roger Schmidt, parce que son parcours est très intéressant. Le fait d'après Leverkusen être parti en Chine, puis ensuite aux Pays-Bas, puis aujourd'hui au Portugal. Si tu veux, au début, c'était vraiment le gegenpressing, donc le pressing à la perte du ballon, etc. Lorsque tu es une petite équipe et que tu rencontres notamment des équipes plus fortes que toi qui, eux, vont avoir la possession, et petit à petit, le fait de jouer dans des clubs qui ont l'habitude d'être en haut de classement, il a dû modifier un petit peu son style en évidemment par rapport à la culture, hein, il en parle très bien d'ailleurs au Portugal. Il peut pas faire la même chose qu'il a fait en Allemagne, qu'il peut faire au Portugal, qu'il doit faire au Portugal, et donc il va petit à petit s'adapter avec la possession. Et donc Roger Schmidt, si tu veux, moi je garde toujours de lui la double confrontation 2014-2015 contre l'Atlético Madrid, gagné 1-0 à l'aller, perdu 1-0 au retour, avec là peut-être le summum de ce qu'a fait Roger Schmidt dans la logique de Ralf et de la Galaxie Salzbourg. Mais depuis, j'ai vu beaucoup de matchs de lui aux Pays-Bas lorsqu'il était au PSV, et j'ai commencé à le voir à Benfica. Il est en train d'évoluer un petit peu, notamment sur le fait de la possession, parce qu'il a des joueurs quand même très très techniques.
Et tu l'as dit, hein, c'est en Autriche, hein, lorsqu'il entraînait le Red Bull Salzbourg qu'il a remporté ses premiers titres majeurs entre 2012 et 2014. Et c'est surtout là-bas que Schmidt a peaufiné son style.
Ja, also ich sag mal so, in Salzburg haben wir ja quasi damals gemeinsam so eine Spielart entwickelt, die so sehr, sehr extrem war, sehr extrem lastig auf hohes Pressing und Gegenpressing. Aber natürlich auch mit Ballbesitz, also es war aber auch dann sehr vertikaler Ballbesitz. Und das haben wir über 2 Jahre entwickelt mit Ralf, mit Helmut Groß, mit allen, die da am Anfang dabei waren, weil das gab es ja nicht, als wir in Salzburg angefangen haben, sondern in Salzburg gab es eine komplett andere Art von Fußball.
Voilà, Roger Schmidt qui explique qu'à Salzbourg, il a développé un style de jeu très extrême, voire extrémiste, hein, le fameux gegenpressing et la possession, avec Ralf Rangnick hein, notamment, parce que c'est avec Schmidt et Rangnick que le fameux style de jeu si typique finalement de la Galaxie Red Bull va être mis en place, hein, Polo. Hein. C'est pas rien
c'est
quand même.
Exactement.
Hein.
Ouais. Non, c'est pas rien. C'est-à-dire que ce qu'on oublie, c'est qu'avant cette période-là, on a souvent des anciens entraîneurs. Je pense à Trapattoni, par exemple, donc qui avait toute sa formidable carrière. Et donc, à partir de ce moment-là, Salzbourg va, pardon, va produire ses propres coachs.
Qui vient souvent
de l'Iffering, mais est toujours avec le même style de jeu, extrêmement extrême, j'allais dire extrêmement extrême, tout à fait par rapport à ce qu'il produit, c'est-à-dire ce fameux gegenpressing, mais aussi le jeu vertical, c'est-à-dire le contre et le jeu de transition très très rapide qu'on a pu voir à l'époque aussi avec Jürgen Klopp, et c'est comme ça qu'on a vu évidemment Roger Schmidt, qu'on a pu voir Peter Zeidler, qu'on a vu Marco Rose, Jesse March, l'Américain aussi, etc., ou Jesse en ce moment à Salzbourg, et si tu veux c'est une période théorique, mais à l'époque moi je me rappelle très bien, c'est que on savait ce que faisait Ralf Rangnick, mais il n'y avait pas encore les théoriciens du football qui t'expliquaient que c'était une vraie révolution alémanique dans sa globalité, parce qu'on parlait beaucoup du jeu de Guardiola et de la possession en outrance, etc., le faux neuf, et en fait c'était petit à petit Ralf Rangnick va créer ce qu'on appelait ses garnements, ses boobies, c'est une génération de coachs qui vont être imprégnés des préceptes de Ralf Rangnick et qui vont un peu se diffuser partout en Europe, le plus connu étant évidemment Jürgen Klopp.
Alors Salzbourg, c'est il y a 10 ans hein, maintenant, il le dit également dans ce petit extrait, finalement sa vision évolue, il s'adapte à la culture des pays où il est également. Je sais que tu as regardé le Benfica, notamment version Schmidt, comment tu le définis du coup? En quoi tu vois la patte Schmidt dans le jeu du Benfica d'aujourd'hui?
Alors je la vois pas tant que ça, dans le sens où je pense que moi j'ai toujours aimé aussi Roger Schmidt déjà pour ses conférences de presse, comment il explique le football. Tu l'as rappelé, hein, c'est quelqu'un qui est un ingénieur mécanique. D'ailleurs, il est devenu coach dans le football un peu par hasard parce qu'il trouvait des ressemblances dans le football et dans l'ingénierie mécanique. Le fait qu'il soit ingénieur, il a un côté très très matheux, donc il analyse tout. Et si tu veux, ce que j'apprécie dans son discours depuis qu'il est à Benfica, c'est qu'il a compris qu'il est dans une autre culture du football, avec des caresseurs de ballon, avec des joueurs extrêmement techniques, ce qu'il n'avait pas forcément ni aux Pays-Bas ni en Allemagne, et donc il doit s'adapter, c'est-à-dire qu'en fait son jeu est tout en mouvement en ce moment, et quand j'ai vu le match contre, alors je passe sur les 20 premières minutes où la Juve a quand même bien dominé la rencontre, et ben tu vois qu'il reste sur ses principes quand même, qu'il faut faire un pressing haut, éviter de défendre trop bas. Il évite en ce moment ce que lui appelait le pressing, les pièges à pressing, c'est-à-dire de se retrouver en supériorité numérique dans une zone du terrain pour ensuite envoyer très rapidement le ballon. Je pense qu'il est en train de s'adapter au football portugais dans le sens où, encore une fois, c'est un jeu très technique. Donc, la vraie question, même si ça marche très bien en ce moment, c'est est-ce que ces concepts à lui, ces préceptes de football peuvent s'adapter à un autre pays beaucoup plus, enfin, je parle sous ton contrôle évidemment, beaucoup plus adapté à la technique, alors qu'il demande lui des efforts physiques normalement très très importants.
Alors quand on dit coach allemand, hein, on pense à Klopp, Tourelle, Nagelsmann notamment. Est-ce que Schmidt c'est un entraîneur qui compte en Allemagne aussi? C'est un nom qui pèse?
Ah ben, ouais. Enfin, son nom revient systématiquement dès qu'il y a un poste important à prendre dans un club important. C'est pas compliqué. Alors le problème c'est qu'on oublie, mais à l'époque où il y avait Leverkusen, donc son passage entre 2014 et 2017 qui a duré un peu plus de 2 ans et demi, il a comment je pourrais dire ça, à l'époque Leverkusen était considéré comme le deuxième club d'Allemagne devant le Borussia Dortmund. Leipzig n'était pas encore à ce niveau-là, Schalke était comme d'habitude extrêmement soit tout en haut, soit tout en bas, et donc Rudi Völler, à l'époque le directeur sportif, le grand patron de l'e-sportif, disait qu'il fallait essayer de garder cette deuxième place. Et donc si tu veux, si t'es deuxième, bah, la première à aller chercher, c'est juste le Bayern Munich. Donc des places, il n'y en a pas 50 000 non plus. Et moi j'aime beaucoup son parcours, parce que il aime beaucoup s'ouvrir aux cultures différentes, et donc il est parti en Chine, où il est une légende là-bas, en ayant gagné la Coupe de l'Empereur notamment. Et puis ensuite, il s'est relancé où? Eh ben, dans un club, évidemment, néerlandais. Alors, le néerlandais n'est pas l'allemand au niveau du parler, mais il y a beaucoup de ressemblances. Et donc, il va dans le deuxième club par la taille aux Pays-Bas, où il s'adapte. Et donc, finalement, est-ce que c'est pas mieux pour lui d'aller chercher la Ligue des Champions, enfin, une participation en Ligue des Champions ou des titres dans un club comme le PSV Eindhoven ou Benfica, par rapport à des clubs, entre guillemets, qui peuvent espérer au grand maximum une qualification en Ligue des Champions avec, en Allemagne? Et on a beaucoup parlé de lui lorsqu'il y a eu l'argent qui a été investi au Hertha Berlin, par exemple, pour monter ce grand projet qui est un bid total aujourd'hui, hein, le fameux Big City Club au Hertha Berlin. On a beaucoup parlé de lui, il n'a pas voulu. Donc il a fait le PSV Eindhoven, il a fait évidemment, il est aujourd'hui à Benfica, mais je pense qu'il va revenir en Allemagne un jour, même si l'âge, il avance aussi en âge, hein, il est plus tout jeune non plus.
55 ans. Et alors justement, c'est la question que j'allais te poser, pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans un très grand club, d'un très grand championnat finalement? Et qu'est-ce qui lui manque?
Alors, quand tu vois son parcours, il y a l'affect que tu peux avoir par rapport au style de jeu qu'il a développé, ses réussites, hein, parce qu'il gagne la coupe des Pays-Bas, il est en tête au Portugal, il réussit des belles choses en qualifiant 2 fois de suite pour les 8e de finale, enfin 2 fois en 3 ans Leverkusen en 8e de finale. Mais peut-être qu'il lui manque un grand parcours, une grande épopée européenne pour regarder ce qui se passe. Maintenant, une équipe de Première Ligue pourrait très bien l'appeler. Il n'y a pas de souci avec ça moi je pense que c'est plus une question de réseau, de ce qu'il a envie, mais je pense qu'il va revenir un jour en Bundesliga dans un gros club allemand, donc ce sera peut-être le Borussia Dortmund dans 2 ans, ou peut-être Schalke qui va revenir en haut de l'affiche, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être qu'il faudrait un club français, je sais pas, l'Olympique Lyonnais, ça serait excellent pour lui, par exemple, je pense. Enfin, encore une fois, il m'allie très bien à Benfica pour le moment, mais c'est peut-être ce qui lui manque. Et surtout, quand tu vois son parcours au PSV Eindhoven, parce que j'avais vu beaucoup de matchs de lui, eh ben, il fait ce qu'on attend de lui. Bon, ben, le plus fort, c'est l'Ajax, donc lui, il finit second, donc il se compense en récupérant une coupe des Pays-Bas. Tu le vois en match, il se qualifie pas pour la Ligue des Champions, parce qu'il se fait taper en qualification. Il va en Europa League, il fait pas de performance par rapport à Monaco, etc. Donc, il se fait éliminer par Leicester, alors qu'il méritait de passer. Donc, il lui manque peut-être, et le match contre la Juve est peut-être son plus grand succès, en fait. Il avait battu l'Atlético, encore une fois, en 8e aller à l'époque, mais c'est peut-être sa plus grande réussite actuelle, même si c'est pas une grande union en ce moment. Il lui manque peut-être, encore une fois, une grande épopée européenne pour montrer, tiens, je suis là et je suis sur le marché.
Et ben, peut-être que ce sera cette saison avec le Benfica, et peut-être que ça se poursuivra face au Paris Saint-Germain. Merci Polo, merci beaucoup.
Merci.
Merci pour cette analyse sur Roger Schmidt, Polo qu'on retrouve dans les Drôles de Dames, bien sûr. Merci Jérôme Thomas à la production, merci Charline Fina à la réalisation. On vous souhaite un bon Benfica Paris Saint-Germain sur RMC, et on se quitte avec l'hymne du Benfica, repris par la chanteuse portugaise Marisa Lish sur un air de fado. Bisous, prenez soin de vous.
Isso me envaidece. Tenho a genica que a qualquer engrandece. Sou de um clube lutador que na luta com fervor nunca encontrou rival neste nosso Portugal.
RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.